Bonjour tout le monde! Bienvenue au deuxième épisode de cette troisième saison de Minute Pharmacie de la QPP. Notre balado est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Je suis Marie-Pascale Beaulieu, directrice des services pharmaceutiques à la QPP. On va commencer en vous parlant de la rougeole. Ensuite, je reçois Jean Boursier pour parler d'Accessa, puis de médicaments dits de spécialité. On va poursuivre avec l'annonce de formation à venir, puis répondre à deux questions d'auditeurs. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans les médias, la rougeole a affecté quelques personnes au Québec, particulièrement dans la région de Montréal et Laval. C'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. On le sait, le meilleur moyen de prévenir la transmission de ce virus, c'est de maintenir une couverture vaccinale élevée. On vise 95%. Présentement, cet objectif ne semble pas atteint pour l'ensemble du Québec et pourrait être assez faible dans certaines régions. Comme on a prouvé notre efficacité, notre agilité en pharmacie pour la vaccination des patients, la santé publique nous a sollicité pour qu'on participe aux efforts de vaccination. La santé publique a privilégié une campagne de vaccination de masse. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut vacciner selon le pic, sans restriction à l'âge. Donc, dans le cas de la rougeole, le vaccin s'adresse aux personnes de 12 mois et plus. Mais selon le calendrier régulier, c'est la combinaison du vaccin, de la rougeole, rubéole, oreillon et avec la varicelle, donc le RRO-VA, qui est administré aux enfants de 12 mois et une deuxième dose à 18 mois. Donc, le RRO-VA, on ne l'a pas en pharmacie. Là. C'est le ProQuad ou c'est le Priorix Tetra. Ça ne fait pas partie des vaccins qui est couvert et disponible en pharmacie. Donc, idéalement, ces enfants-là, il va falloir qu'ils se rendent dans des centres de vaccination ou au CLSC. En pharmacie, on suggère de se concentrer sur la population qui n'est pas adéquatement vaccinée ou qui n'a jamais eu la maladie et qui serait à risque de complications de la rougeole dans l'immédiat. Pour l'instant, le Priorix, donc pas celui avec la varicelle, pas le tétra, il est sur la liste des vaccins couverts en pharmacie, mais en difficulté d'approvisionnement. Il y a le MMR2 qui a été ajouté au vaccin couvert en pharmacie le 7 mars dernier. Au moment d'enregistrer ce balado, on n'a pas encore tous les éléments et les détails qui nous permettent de vous informer sur quand le vaccin sera disponible dans vos pharmacies. On va vous tenir informés par un bulletin lorsque ça sera le cas. À titre de rappel, deux doses sont nécessaires pour une protection adéquate. Les personnes nées avant les années 70 sont considérées comme protégées également. Pour plus d'informations, on vous invite à visiter le protocole d'immunisation du Québec. Le lien va être dans les notes du balado. On va maintenant passer à l'entrevue de la semaine. Aujourd'hui, on accueille Jean Boursier, qui est le directeur général et vice-président de l'AQPP. Mais comme vous le savez peut-être, Jean porte deux chapeaux. Aujourd'hui, puisqu'on va parler d'Accessa, c'est en tant que président de notre filière Accessa qui va s'adresser à nous. Donc, c'est en tant que président d'Accessa que tu es avec nous aujourd'hui, Jean. Allô?
Oui, allô. Je vais enlever l'autre chapeau. Ça va être plus simple.
Ben oui, c'est ça. Donc, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va bien, ça va bien. On est très, très occupés, donc, mais bien occupés.
Super. Fait que je voulais qu'on parle un petit peu d'Accessa. Mm-hmm. Comment ça va chez Accessa?
Écoute, Accessa, ça va occuper aussi. On est à déployer différentes ententes qu'on a signées l'année passée. Comme tu sais, l'année passée, ça a été une année très occupée en termes de signature d'entente. Mais toutes ces ententes-là se sont mises en place dans la deuxième portion de l'année passée, c'est-à-dire au printemps, à l'été 2023. Donc, depuis l'automne, on est en déploiement d'entente avec tout ce que ça implique de formation, de contact avec les pharmaciens sur le terrain, de suivi avec les compagnies pharmaceutiques. Donc, oui, occupé, très occupé, bien occupé.
Super. Est-ce que tu vois une bonne participation des pharmacies?
Les pharmacies participent en général bien. On a près de 600 pharmacies d'inscrites, 450 pharmacies participantes, donc c'est-à-dire qui ont des patients actifs dans le système. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que certaines pharmacies ont de la difficulté à inscrire leurs patients, à développer leur relation avec les patients pour les inscrire au programme Accessa. Puis ça, c'est on cherche à optimiser ça, à s'assurer que le plus de patients possible présents dans la pharmacie et qui prennent évidemment le produit en question là, sont inscrits par les pharmaciens au programme Accessa. Ça demande un défi. Parce que tu le sais très bien, Mme Pascal, pénurie de main-d'œuvre, pression de service, de vaccination, augmentation des niveaux de prescription, difficulté à recruter des techniciens, difficulté des fois à recruter des pharmaciens. Donc, on est aussi dans ce mood-là, dans Accessa, de dire comment est-ce qu'on aide les pharmaciens à inscrire leurs patients, considérant l'ensemble de ces problématiques-là vécues en pharmacie.
Quel genre de solution là, Accessa est prêt à nous amener?
Bien, je pense que d'abord et avant tout, simplifier nos processus. Comment est-ce qu'on est capable de venir supporter les pharmaciens pour les aider dans cette simplification de processus-là à inscrire leurs patients? Donc, beaucoup de contacts entre les coordonnateurs et les pharmaciens pour s'assurer que le pharmacien travaille de la bonne façon, comprend bien les enjeux de l'inscription, mais aussi optimise cette inscription-là. Fait qu'un service très personnalisé de la part des coordonnatrices, parce que c'est des femmes, des coordonnatrices qui vont inscrire, qui vont travailler avec le pharmacien pour inscrire les patients. Fait que ça fait en sorte qu'on forme le pharmacien, les pharmaciens, mais aussi, en passant, les assistants techniques, les ATP, et aussi les infirmières, parce qu'ils peuvent le faire aussi, à inscrire les patients et à travailler de la meilleure façon possible pour le faire.
Fait que si je comprends bien, un ATP ou même un TP qui s'en vient sur le marché, puis l'équipe en pharmacie, si présentement ils ont de la misère, ils peuvent appeler Accessa, puis la coordonnatrice va les aider?
Absolument. Puis c'est un service très personnalisé. Là. Il va avoir un accompagnement de la part de la coordonnatrice pour s'assurer que l'équipe de la pharmacie comprend bien les meilleures façons de faire, les meilleurs processus qui vont venir optimiser l'ensemble du cheminement du patient au travers du programme Accessa.
Fait que ça, c'est dans le but d'aider les équipes qui manquent de temps.
Absolument. C'est, on est dans le flot de travail, on est dans comment est-ce qu'on s'assure que l'Accessa s'insère bien, le programme Accessa s'insère bien dans le flot de travail courant de la pharmacie.
Là, pour être sûr que tout le monde sait là, qu'est-ce qu'on veut dire avec Accessa, en 2 minutes, là, c'est quoi Accessa?
2 minutes?
Là,
c'est pas beaucoup.
10 secondes.
Là. C'est pas beaucoup, hein, Pascal. Mais Accessa, c'est un gestionnaire de programme de soutien aux patients. Accessa travaille avec les compagnies pharmaceutiques pour développer ces programmes-là, les rend fonctionnels au travers d'une plateforme qui s'appelle Curo, une plateforme qui permet aux pharmaciens et à son équipe d'inscrire les patients, mais également de gérer les activités en relation avec le patient au travers de cette plateforme-là, qui est très, très interactive et qui permet d'emmagasiner beaucoup de données. Et ça permet pour le pharmacien de faire un meilleur suivi du patient, de rendre plus efficace la thérapie du patient et à ce moment-là, d'ajouter un service à valeur ajoutée à son arsenal de services aux patients. Donc, Accessa est un outil important pour les médicaments de spécialité. Là, je dépasse mes 10 secondes. Mais on sait que les médicaments de spécialité prennent une grande part du marché et cette part de marché-là va être de plus en plus importante, est en croissance. C'est cette part de marché-là qui est en croissance actuellement partout dans le monde, mais évidemment au Québec. Et si on ne prend pas charge de ces produits-là, on ne prend pas charge des thérapies associées à ces produits-là, bien, je pense qu'on manque le bateau. Et on parle ici de plusieurs milliards de chiffres d'affaires qu'on risque de laisser sur la table, mais qu'on laisse actuellement sur la table.
J'espère que ça a encouragé les équipes en pharmacie qui nous écoutent là, à s'inscrire à Accessa s'ils ne l'ont pas déjà fait, puis même à appeler les coordonnateurs pour aller chercher cette aide-là là, qu'on leur offre. Fait que je te remercie de la discussion, Jean. Merci beaucoup de ta présence.
Et si tu me permets, je vais conclure en disant Accessa, c'est une filiale à part entière de la QPP. Ça l'appartient à la QPP, donc ça fait partie des composantes de services que la QPP offre à ses membres. Je pense qu'il faut l'optimiser, je pense qu'il faut l'utiliser. Puis j'invite tous les membres de la QPP à l'utiliser et à travailler avec Accessa au bénéfice de l'ensemble des pharmaciens et pharmaciennes propriétaires du Québec.
Super, merci beaucoup.
Merci, Mme Pascal.
Maintenant, je passe aux formations. Donc, la prochaine formation qu'on organise est dans 2 jours, c'est-à-dire le 13 mars à 19h. Le sujet sera l'optimisation des services des patients atteints de dyslipidémie. Inscrivez-vous pour en apprendre plus sur la prise en charge de cette condition. Le lien est dans les notes du balado. Ensuite, le 4 avril à 8h du matin, on parlera de douleurs chroniques. La formation est sous forme de webinaire direct. Comme vous savez, la douleur chronique, comme la dyslipidémie, sont des conditions dont la prise en charge pour atteindre les cibles thérapeutiques est prévue à la règle 32 de l'entente avec la MSSS. Les prises en charge peuvent être initiées par le pharmacien. Donc, ils peuvent être aussi à la demande du médecin et à la demande du patient, mais c'est important de vous dire que vous pouvez, comme pharmacien, initier la prise en charge. Les critères pour avoir droit de facturer la prise en charge de la douleur chronique dans ce cas-ci sont les mêmes que les autres conditions. Entre autres, les cibles thérapeutiques ne doivent pas être atteintes au moment de débuter la prise en charge. charge. L'affaire avec la douleur, c'est que c'est souvent un peu plus subjectif. Donc, dans ce webinaire-là, on va vous parler de bonnes pratiques afin d'établir et d'évaluer l'atteinte des cibles dans le traitement des douleurs chroniques. Les inscriptions seront lancées cette semaine. Surveillez le bulletin magistral. On passe maintenant à la question de la semaine. On nous a demandé, lorsque j'individualise une ordonnance collective pour un patient, est-ce que je peux facturer des frais autres que l'honoraire lié à l'exécution de l'ordonnance? D'abord, le pharmacien, faut qu'il se demande s'il peut prescrire le médicament de façon autonome sans passer par l'ordonnance collective. Par exemple, le pharmacien pourra se servir de l'amorce de traitement en vertu de la règle 30 pour prescrire l'antibiotique contre l'infection urinaire chez la femme. S'il ne s'agit pas d'une situation où on peut prescrire de façon autonome, disons que la patiente n'a jamais eu de traitement d'antibiotique pour une infection urinaire, le pharmacien pourra alors se tourner vers l'ordonnance collective de sa région s'il y en a une. Dans le contexte de l'ordonnance collective, est-ce qu'on peut facturer des frais de consultation dans le cadre de l'application de l'ordonnance collective? La réponse est non. Les frais seraient considérés comme des frais accessoires à un service assuré, soit à l'exécution de l'ordonnance. Par contre, le matériel requis dans le cadre de l'évaluation de l'ordonnance collective, dans notre exemple pour l'infection urinaire, les bandelettes pour tester l'infection urinaire, à ce moment-là, des frais globaux pourraient être facturés aux patients en fonction des activités réalisées dans le cadre de l'ordonnance collective. Je vous invite à consulter la page des frais accessoires sur le site de la QPP. Vous pouvez visionner aussi une capsule disponible sur l'espace pharmacien, puis vous allez vraiment avoir toutes les explications pour comprendre les frais accessoires. Le lien va être dans les notes du balado. On est conscient qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont requis pour individualiser les ordonnances collectives, puis qu'il y a une multiplication des ordonnances collectives à la grandeur du Québec. Sachez qu'on continue nos représentations auprès des instances afin de faire reconnaître votre valeur. Pour la deuxième question, on nous a demandé si on peut facturer la substitution de la règle 37 du Rybelsus vers l'Ozempic ou vice-versa. Notre champ de pratique nous permet de faire cette substitution, mais il ne s'agit pas d'une situation qui est rémunérée selon notre entente, puisqu'il s'agit de la même dénomination commune. Selon la règle 37, la substitution par un médicament de la même dénomination commune, mais d'une autre forme pharmaceutique, ne donne droit à aucun paiement. La substitution thérapeutique est facturable en cas de rupture d'approvisionnement, lorsqu'un médicament est officiellement retiré du marché canadien, lorsque le médicament présente un problème relatif à son administration ou lorsqu'un médicament présente un risque pour la sécurité du patient, que la situation clinique du patient justifie l'amorce rapide d'une thérapie médicamenteuse et que le prescripteur ne peut être joint en temps utile. Le dernier point, là, c'est notre fameux vendredi soir où on a un antibiotique à laquelle le patient est allergique. On peut maintenant là, le substituer de façon autonome, facturer la substitution et il faut aviser le prescripteur. Ça conclut déjà notre deuxième épisode de la troisième saison de Minute Pharmacie de la QPP. J'espère que les informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, vos commentaires à l'adresse affaires-pharmaceutiques@qpp.qc.ca. Je vous rappelle de consulter nos ressources pour rester bien informé au sujet de votre profession. Merci encore à notre invité Jean. Bonne semaine, on se reparle dans deux semaines.